Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est tout simplement reconnaître que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute situation. Tu es au-dessus de toute épreuve. Tu es au-dessus de toute montagne. Tu es au-dessus de ce qui nous intimide. Tu es au-dessus de ce que nous craignons. Tu es au-dessus de tout ce que nous avons déjà vu. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout titre, de tout pouvoir, de toute principauté. Tu es au-dessus. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout nom. Et devant toi, tout genou fléchit et nous fléchissons. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Nous nous courbons devant ta majesté et ta grandeur. Sois élevé, éternel notre Dieu. Sois élevé au-dessus de nos maladies, de nos problèmes, de ce qui nous attriste. Sois élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Et reçois la gloire et l'honneur cet après-midi. Berger de nos âmes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons confesser notre foi? Je crois en Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre encore un petit moment après le partage de la parole de Dieu pour plonger dans la prière. Et à l'instant, j'aimerais tout d'abord vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de plonger nos regards dans sa parole et de tourner nos faces vers lui. Car c'est lui le consommateur, le rémunérateur de notre foi. Si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour écouter un homme. Nous sommes venus ici pour lui, pour répondre à son invitation. Alléluia. Et c'est lui que nous voulons voir. C'est lui que nous voulons voir se déployer dans nos vies, dans nos familles, dans notre province et dans notre pays. Alléluia. J'aimerais nous inviter à partager la parole de Dieu ce soir autour du thème, du sous-thème, puisque notre thème est le même. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le sous-thème sur lequel nous voulons échanger ou partager ce soir est intitulé « Les épreuves dans l'attente de la promesse et le réveil spirituel ». Les épreuves dans l'attente de la promesse et le réveil spirituel. Et nous allons pour cela considérer la vie d'Abraham, puisque si la Bible a enregistré les expériences ou le vécu de ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est pour que leurs expériences, leurs vécus nous servent d'enseignement. Dieu a agi dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui nous ont précédés dans la foi pour nous enseigner à nous qui sommes l'Église des temps de la fin. Alléluia. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous inviter à l'ouvrir avec moi dans Genèse chapitre 22. Je vais faire la lecture. Genèse chapitre 22. Voici ce que dit la parole de Dieu.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, soulignez ça, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parole du Seigneur. C'est l'histoire de cet homme, nous connaissons l'histoire. Pour la plupart d'entre nous, peut-être, mais c'est l'histoire d'un homme qui a été éprouvé, pas seulement dans le récit que nous venons de lire, mais bien avant. L'épreuve dans la vie d'Abraham a commencé bien avant que Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac en holocauste. Un holocauste, c'était un sacrifice qui était destiné à être brûlé et consumé entièrement. C'est ça un holocauste. Abraham reçoit la promesse de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 4, Dieu apparaît à Abraham pour la première fois et lui dit, « Ta récompense sera grande. » Mais seulement la femme qui est à côté d'Abraham est stérile. Première équation. Abraham reçoit la promesse, mais sa femme est stérile. Et sa femme lui dira, après avoir attendu 11 ans après, sa femme va lui dire, écoute, Dieu m'a rendu stérile. C'est Dieu. Dieu m'a rendu stérile. Alors cette promesse, c'est peut-être par ma servante que ça va se réaliser. « Va donc vers ma servante. » Et Abraham est allé vers sa servante avec l'accord de sa femme. Et un enfant naîtra de cette union, Ismaël. Et à partir de la naissance d'Ismaël, quand nous lisons la Bible, dans Genèse, quand vous poursuivez, vous arrivez jusqu'à Genèse chapitre 16, au verset 16, il y a la naissance d'Ismaël, vous continuez, vous allez constater qu'apparemment, Abraham pense que la promesse est finalement arrivée. Seulement, Genèse chapitre 17, versets 15 à 19, Et là, Abraham n'a plus 75 ans, il a maintenant 99 ans. Autrement dit, c'est 24 ans plus tard. Dieu revient vers Abraham. Comme pour dire que c'est que tu as la solution de réchange que tu es allé chercher, Ce n'est pas ça que je t'avais promis. Il revient avec la même promesse. Et cette fois-ci, Dieu précise. Il dit que c'est par Sarah ton épouse, que cette promesse va se réaliser. Et la Bible dit que Abraham rit. Il rit pourquoi? Parce qu'il a presque 100 ans. Et sa femme est aussi vieille. Comment à cet âge je vais concevoir? Ou comment à cet âge ma femme va concevoir? C'est vrai, plus tard on montrera que Sarah elle-même rira. Mais Abraham était le premier à avoir ri. L'année qui va suivre, Genèse chapitre 21, verset 5, Isaac va naître. Alléluia. Dieu réalise sa promesse, mais une promesse qui s'accomplit après 25 ans d'attente. Et on peut se poser la question, si Dieu savait que ce n'est qu'après 25 ans qu'il allait réaliser la promesse, pourquoi il n'est pas venu l'année avant? Pourquoi faire attendre quelqu'un 25 ans? Pourquoi? Et c'est ce qui nous arrive lorsque nous sommes en attente de la promesse de Dieu. Cette promesse qui est une bonne nouvelle, à un moment donné, ça se transforme en épreuve. Alléluia. Ça se transforme en épreuve parce que cette bonne nouvelle que nous attendons, finalement, n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Et on attend. Et finalement, on est tellement fatigué d'attendre. Le doute s'installe. Le doute s'installe et on commence à se dire, peut-être c'est par cette voie-ci. Alors on essaie d'aider Dieu, de lui rendre la tâche facile. Peut-être qu'on n'avait pas très bien compris. Alors on finit par développer des Ismaël. Beaucoup d'entre nous vivent avec des Ismaël dans leur vie. Des solutions pratiques, réalistes. Des solutions qui ont un sens, que la science propose, que la sagesse humaine propose. Oui, parce que lorsqu'on attend la promesse, parfois, Dieu, lorsqu'il nous donne une promesse, comme mon frère le disait tout à l'heure dans l'une des séances passées ici, Dieu va rarement nous dire, nous promettre des choses qui sont à notre portée. Alléluia. Il va nous promettre des choses qui sont à la dimension de ce qu'il est. Et ça peut être une dimension qui est supérieure à la... C'est une dimension toujours qui est supérieure à la nôtre. J'ai lu un homme qui a dit, lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne une parole, et que tu constates que la vision ou la parole ou la promesse que Dieu te donne dépasse ton budget, sache que Dieu n'est pas en train de vérifier ton budget. Alléluia. Ce que Dieu est en train de tester, ce n'est pas ton compte en banque. Ce que Dieu est en train de tester, c'est ta foi. Alléluia. Oui. Évidemment, il en parlait dans un contexte où Dieu nous donne une vision qui dépasse nos moyens financiers. Alors, Abraham a connu cela. Alors, on peut se poser la question, et ce sont les deux questions que j'aimerais, auxquelles j'aimerais que nous puissions répondre ce soir, avant de prier. Pourquoi Dieu amène l'épreuve? Pourquoi Dieu éprouve Abraham en lui demandant d'offrir son fils en sacrifice? Pourquoi Dieu éprouve Abraham en le faisant attendre pendant autant d'années avec une promesse? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première question. La deuxième question à laquelle j'aimerais que nous puissions répondre, c'est quelle attitude développer lorsque nous sommes au milieu de l'épreuve? Lorsque nous considérons l'épreuve d'Abraham dans le récit de Genèse chapitre 22, Vous pouvez regarder dans tout ce récit pour chercher à savoir qu'est-ce qui a poussé Dieu à demander à Abraham à lui offrir son fils. Abraham n'a pas la réponse à cette question. Il est en train de jouir de la promesse. Et c'est pendant qu'il est en train de jouir de la promesse que Dieu lui dit, bon, je vais reprendre ce que j'ai donné. Mais finalement, entre nous, à quoi, on peut se poser la question, Seigneur, à quoi tu joues? J'ai reçu la promesse que j'ai attendue pendant 25 ans. Et quelques dizaines d'années après, pendant que je suis en train de jouir de cette promesse, peut-être qu'il est en train de planifier l'avenir de son enfant. Et Dieu dit, je vais le reprendre. Nouvelle épreuve. Et dans l'expérience d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, cette épreuve nous montre qu'il n'y a rien qu'Abraham a fait de mal. Rien. Pour que Dieu l'éprouve. Même lorsque Dieu rend Sarah stérile. Donc il y a des situations que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur. Des épreuves. Si vous voulez savoir d'où vient cette épreuve, eh bien la réponse est simple. C'est Dieu. Ce n'est pas la malédiction. Ce n'est pas une parole prononcée par l'oncle ou par le grand-père. Rien à voir. Ce n'est pas un lien. Ce n'est pas un... Rien. Dieu lui-même s'est levé et il crée une situation compliquée dans la vie de son enfant. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait pour une raison, et cette raison, c'est que, et nous voyons cette raison, lorsque nous lisons le récit de Genèse 22, en corrélation avec ce qui se passe dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 9, la Bible nous montre ce qui se passait dans le cœur d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham croyait que Dieu allait ressusciter Isaac. Alléluia. Le récit d'Abraham, c'est la préfiguration du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Et dans cette histoire, Abraham représente le Père. Le Père qui aime son Fils. Voyez, la Bible dit, prends ton Fils, bien-aimé, celui que tu aimes, le seul. N'est-ce pas ce que Dieu a fait en Jésus-Christ? La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a, comment? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qui? Son Fils, son unique. Son unique. Abraham, dans ce récit, est le type de Dieu. Dieu le Père, qui aime son Fils, Jésus-Christ, qui est représenté par ce récit par Isaac. Et Isaac est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui est offert en sacrifice. Et il est offert en sacrifice sur le bois. Voilà. Vous voyez, le récit dit qu'Abraham va sur la colline de Morija ou la montagne de Morija avec du bois. Isaac est posé sur le bois. Et le fils en question, c'est un jeune homme qui est fort, qui a la capacité de dire « je ne veux pas ». Cette affaire ne me concerne pas. Tu es serviteur de Dieu, qu'il te donne. Isaac pouvait fuir. Abraham avait plus de 100 ans. Il allait le suivre comment? Oui, Isaac est un homme accompli. Il a la capacité de refuser. Mais dans ce récit, nous voyons que Isaac coopère avec Abraham. La Bible dit qu'ils marchèrent tous deux ensemble. Mais ils marchent ensemble, ça veut dire que Isaac a accepté d'être lié par son père. Il a accepté de monter sur cet autel. Il a accepté d'être égorgé. Et Jésus-Christ l'a dit aussi, devant Pilate, le frère Mouindo l'a dit ici, que je donne ma vie moi-même, tu n'as aucune autorité sur moi. Ce qu'il fait, mon enseignant Lécodime nous avait posé une question, qu'est-ce qui avait retenu Jésus à la croix? Vous pensez que c'est quoi? Ce n'était pas le clou, hein? Ceux qui le clouaient là, ils pensaient que touche à Moïse. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu à la croix. Mais c'est sa bonne volonté. Il a accepté de monter. C'est très différent de subir une sanction quand vous n'avez pas la capacité de vous échapper. Déjà, ça fait mal même lorsque vous avez la capacité de vous échapper. Mais si vous avez le pouvoir de dire non et de vous opposer même à ceux qui vous punissent, mais vous acceptez quand même, la douleur est encore plus forte. Alléluia. C'est ce que Jésus fait à la croix. Il accepte le sacrifice. Pourquoi? À cause de son amour pour vous et moi. Et dans ce récit, nous avons aussi le lieu où ce sacrifice est en train de se produire. Morija. Beaucoup de commentateurs bibliques disent que c'est le même lieu où Jésus-Christ sera crucifié. Alléluia. Donc, lorsque vous regardez le récit d'Abraham, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train d'évangéliser à l'humanité. Il utilise Abraham comme un matériel didactique pour s'adresser aux générations à venir. Voici mon plan du salut. Alléluia. Et nous voyons aussi dans ce récit, il y a l'idée de la résurrection. Hébreux 11, verset 19 nous le dit. Mais aussi dans Genèse 22 que nous avons lu, lorsqu'Abraham va s'adresser à ses serviteurs, il dit, attendez ici, pendant que moi et le jeune homme, nous allons, et il ne dit pas que je reviendrai. Non. Il dit, nous reviendrons. Alléluia. Pour le dire, il devait croire qu'effectivement, Dieu va ressusciter cet enfant. Alléluia. Donc, Dieu est en train de prêcher à l'humanité et pour le faire, il n'utilise pas seulement les paroles, mais il utilise la vie d'un homme, Abraham. Et aujourd'hui, Abraham est le père de la foi. Abraham, la foi d'Abraham, la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham qui nous ouvre, au fait, nous aussi, la voie au salut. Alléluia. Nous sommes héritiers, mais c'est par la foi d'Abraham. Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque Dieu permet l'épreuve, lorsque Dieu amène l'épreuve dans la vie d'un homme ou d'une femme, Dieu est en train de faire une chose. Il est en train de proclamer son œuvre glorieuse. Tout simplement. Pourquoi vous connaissez ce que vous connaissez? Dieu est en train de chercher à manifester sa gloire. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Cherchez le coupable et trouvez-le si vous voulez. Mais c'est une perte de temps. Dans la Bible, il y a un autre cas. Il y a plusieurs cas, mais je vais citer un autre. Dans Jean chapitre 9, verset 1 à 3, la Bible parle d'un aveugle, un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance que Jésus va guérir. Mais avant cela, les disciples vont lui poser la question, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il naisse aveugle? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que sa famille, est-ce que ses parents, est-ce qu'il y a quelque... » Non. C'est un peu comme si Jésus disait, « Ici, il n'y a pas besoin de cure d'âme, Ça n'a rien à voir avec le passé. Cet homme est né aveugle pour maintenant. Pour ce que je vais faire maintenant. C'est pour ça qu'il est né aveugle. Alléluia. Dieu laisse cet homme naître et vivre aveugle toute sa vie. Parce qu'il a fixé un temps où lui, il veut manifester sa gloire. C'est aussi ça le Dieu que nous adorons. Dieu est capable, entre guillemets, gaspiller. Mais je mets ça entre guillemets. Oui, la vie d'un homme, qui sommes-nous pour lui poser la question? Pourquoi tu fais ce que tu fais, comme tu le fais, quand tu le fais? Il est Dieu. Alléluia. Et Abraham le savait. Abraham va traverser cette expérience sans poser des questions à Dieu. Il avait des questions, il était fait de chair et de sang, comme vous et moi. Mais il décide de ne pas poser de questions. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce Dieu est fidèle à sa promesse.
Alléluia.
Il connaît le Dieu qu'il sert et il lui est soumis. Bien-aimés dans le Seigneur, au milieu des épreuves, nous avons le droit d'avoir des questions. Nous avons le droit de nous poser des questions. Mais en nous posant des questions, je vous en supplie, restons soumis au Seigneur. Restons soumis au Seigneur. Nous n'avons aucune idée de ce que Dieu est en train de... Nous n'avons aucune idée de ce que c'est que la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me définir la gloire de Dieu? Vous savez ce que c'est? Nous n'avons aucune idée de ce que c'est que la gloire de Dieu. Restons soumis au Seigneur au milieu de l'épreuve. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu amène l'épreuve dans notre vie ou dans nos vies, nous tirons cela de la vie de Jonas. Faute de temps, je ne vais pas tout lire, mais lisez tous les quatre chapitres. Ce sont des petits chapitres, vous pouvez les lire et les terminer dans 30 minutes. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive pour prêcher la repentance. Les Ninivites sont des gens qui ont atteint le sommet de la vie de péché. Jonas le sait. Et Jonas sait que normalement, quand un peuple atteint ce niveau-ci, Dieu doit les exterminer. Mais Dieu l'envoie à Ninive pour prêcher la repentance. Jonas refuse d'aller à Ninive. Il prend un bateau, il va à Tarsis. Et au milieu de son voyage sur la mer, Dieu fait susciter la tempête. L'épreuve arrive. La tempête va entraîner Jonas. Jonas sera jeté dans la mer et va passer 3 jours dans le ventre du poisson. Et le poisson va le vomir à la destination, là où Dieu l'avait demandé d'aller. C'est là que le poisson va le vomir. Un peu comme pour Dieu, une façon pour Dieu de dire, va là où j'étais envoyé. Alléluia. Et Jonas, c'est l'exemple typique de vous et moi. Lorsque nous avons des priorités ou des points de vue différents par rapport à la volonté de Dieu pour nous. Vous voyez, le frère Joe, le lundi, il a dit ici que le réveil n'arrive que par des personnes qui sont eux-mêmes réveillées ou transformées. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, même physiquement, vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un alors que vous-même vous êtes endormi. Pour réveiller quelqu'un, vous devez vous-même d'abord être réveillé. Alléluia. Le réveil, c'est une affaire qui concerne les personnes qui sont d'abord transformées eux-mêmes. Et Dieu sait que l'épreuve, lorsque nous sommes éprouvés, c'est lorsque nous sommes éprouvés que nous sommes maintenant dans les bonnes dispositions pour suivre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'épreuve vient changer ou réaligner nos priorités. Souvent, nous marchons avec nos propres priorités, nos propres désirs ou notre propre manière de voir les choses. Et Dieu suscite l'épreuve parce qu'il veut réorienter notre parcours ou réorienter nos priorités et les aligner aux siennes. Parce que c'est la seule manière pour Dieu de manifester sa gloire. Alors c'est ce qui arrive à Jonas. L'épreuve qui est arrivée à la mer, la tempête qui a surgi dans la mer, n'avait qu'un seul but, changer les priorités de Jonas et les aligner aux priorités de Dieu. Et Jonas le savait lui-même. Il dit, il va s'adresser à Dieu en disant, je savais que toi tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. Alors j'ai refusé d'y aller parce que je savais que tu finirais par pardonner à ces gens s'ils se repentent. Dieu, lui, a décidé de pardonner. Mais Jonas, lui, il veut que Dieu sanctionne. Oui. C'est peut-être ce que nous ressentons aussi. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, vous avez finalement eu l'information que si je suis dans cette situation, c'est à cause de telle personne. Si les choses ne marchent pas dans mes études, c'est à cause de telle personne. Dans mon foyer, si ça ne marche pas, c'est à cause de cette épouse qui est têtue, qui n'écoute pas, qui n'écoute que sa mère. Voyez? Alors, tout ce que vous voulez, c'est que Dieu fasse les choses à votre manière. Mais Dieu peut vouloir faire les choses différemment. Je me pose souvent la question, et souvent je me demande si notre façon parfois de prier pour notre pays, c'est la meilleure manière de prier. Même lorsque nous sommes agressés comme nous le sommes maintenant. L'agenda de Dieu pour ces personnes qui eux aussi prient peut-être. Oui, l'agenda de Dieu pour eux peut ne pas être la vengeance. Dieu peut avoir prévu d'être compatissant envers eux. Alléluia. Oui. Mais est-ce que cela va passer par nous? Est-ce que nous sommes les personnes que Dieu va utiliser pour transformer ces gens? Cela ne sera possible que si nous avons nos priorités alignées aux priorités de Dieu. Alléluia. Le réveil n'arrive que lorsque les hommes et les femmes ont les mêmes priorités que Dieu. Alléluia. Et lorsque l'épreuve arrive, l'épreuve vient exposer les choses, les situations, les domaines dans notre vie où nous avons besoin de grandir, où nous avons besoin de changer, où nous avons besoin d'être transformés. C'est ça le but de l'épreuve, notre transformation intérieure. Alléluia. Pourquoi Dieu autorise l'épreuve? Pourquoi Dieu permet l'épreuve? Pourquoi Dieu permet que la promesse traîne? Deux raisons. Dieu veut manifester sa gloire. Deuxième raison. Dieu veut nous transformer. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à être transformé par le Seigneur? Est-ce que tu veux que le Seigneur te transforme? Est-ce que tu veux que le Seigneur t'utilise comme l'argile entre les mains du potier? Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Même si cela paraît mal, même si cela ne correspond pas à tes ambitions, même si cela ressemble comme si à un échec, Dieu n'a-t-il pas le droit de disposer de toi comme il veut? Parce qu'après tout, tu lui appartiens. Alléluia. Alors, quelle attitude adopter dans l'épreuve? Quelle attitude adopter dans l'épreuve? Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve, nous devons savoir que l'épreuve est une chose terrible parce que l'épreuve a la capacité de rendre flou même notre jugement. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 11? Si vous lisez Matthieu 11, 2 à 5, Jean-Baptiste est celui qui avait annoncé la venue du Messie. Quand on lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert, repentez-vous. Préparez le chemin. Et quand Jésus arrive, quand sa prédication s'accomplit, Jean-Baptiste, lui-même, il dit, voici l'agneau. Il montre au peuple, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de lui ouvrir les sandales. Il montre au peuple ce que je vous disais là quand je prêchais. Celui que j'ai annoncé, le voilà. Mais lorsqu'il se retrouve en prison, la Bible dit, verset de Matthieu 11, à partir du verset 2, Jean ayant entendu dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est lui qui a annoncé que c'est lui le Messie. Mais quand l'épreuve devient tellement difficile, il commence à douter même de sa propre prédication. Alléluia. Nous ne sommes pas épargnés des choses que nous prêchons. Devant l'épreuve, nous sommes tous humains. Alléluia. Et Jésus va lui envoyer une parole de consolation. Il dit, allez lui dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Dieu répond à Jean-Baptiste en lui donnant la mission du Messie qui avait été annoncée par le prophète Ésaïe. Alléluia. Que Dieu nous donne
que Dieu vous donne au milieu de ce que vous traversez, une parole de consolation. C'est ma prière. Que Dieu vous donne une parole de consolation. Quelle attitude adopter dans l'épreuve? Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose, la première attitude que nous devons avoir dans l'épreuve, c'est que nous devons connaître et croire en la promesse de Dieu. Nous devons connaître la promesse attachée à la situation que nous traversons. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et les promesses de Dieu sont dans sa parole. Alléluia. Devant chaque épreuve, il y a une promesse attachée à l'épreuve. Donc cela veut dire que lorsque nous sommes au milieu d'une épreuve, ce que nous devons rechercher, ce n'est pas qui est le sorcier, qui est le responsable, qui est le coupable. Ce que nous devons rechercher, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 9, 1 à 2, Daniel est dans une situation où son pays a été conquis, son peuple a été déporté en Babylone, dépouille son pays. La Bible dit ceci. La première année de son règne, du règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à son prophète Jérémie. Alléluia. Avant de commencer à demander la délivrance, Daniel avait besoin de connaître qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre est encore en accord avec l'agenda de Dieu? Daniel a compris que 70 années se sont accomplies. Donc, nous n'avons plus le droit de continuer à vivre ici, dans ce pays. Parce que ça ne correspond plus à la volonté de Dieu. Le temps est arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole de Dieu, c'est notre boussole. C'est notre boussole. Nous voulons prier pour notre pays, mais nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à notre pays. Cette volonté sera révélée par les Écritures. Cette volonté sera révélée par les dons que Dieu a placé dans son église. Il y a des hommes que Dieu a placés dans son église qui ont le don de la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit « Ne méprisez pas la prophétie ». Ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que nous devons refuser la prophétie. Parce que même s'il y a des faux dollars, nous ne refusons pas les dollars. Nous testons, n'est-ce pas? Oui, nous devons examiner chaque prophétie. Nous avons besoin de la prophétie. Alléluia. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dont Dieu a fait don à l'Église. Église du Seigneur, ne méprise pas la prophétie. N'entrez pas dans le jeu du monde. Le monde méprise la prophétie. Quand un homme se lève, il dit, Dieu m'a dit ceci pour la RDC. Ne vous joignez pas à ceux qui se moquent des prophètes. Ne le faites pas. Examinez plutôt la prophétie. Et retenez ce qui est bon à retenir. Parce que nous avons besoin d'une parole venant de Dieu par rapport à la situation que nous traversons dans notre pays. Alléluia. Est-ce que tu connais la parole, la promesse de Dieu qui est attachée à l'épreuve que tu traverses? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit? C'est important que nous sachions ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne va pas exaucer nos désirs, même s'ils sont légitimes. Dieu n'exauce que sa parole. Arrêtons d'amener dans la présence de Dieu nos désirs. Seigneur, je veux. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu et de ce qu'il a dit. Il est temps que lorsque nous prions, nous disions, Seigneur, tu as dit. Comme Daniel, tu as dit. Et puisque tu as dit, honore ta parole. Et que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que le Dieu que nous adorons est le Dieu véritable. Comment les hommes sauront-ils que tu es vivant, que tu es réel, que tu délivres, que tu guéris, que tu restaures, si tu n'honores pas ta parole dans notre vie? Alléluia.
Rappelons à Dieu ses promesses lorsque nous prions. Ne soyons pas devant les défis, ne soyons pas des historiens, des gens qui se tournent vers le passé. Soyons des prophètes. Alléluia. Soyons des prophètes. Dans les défis, ne soyons pas des historiens, soyons des prophètes. Alléluia. Quelle attitude adopter? Nous devons apprendre, bien-aimés, à interpréter l'épreuve avec sagesse. Et j'ai donné le sens de l'épreuve. Interprétons l'épreuve avec sagesse. Ça peut être une épreuve qui résulte du péché. C'est possible. Il y a des gens qui traversent des situations compliquées parce qu'un homme a péché. C'est possible. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas la conséquence. Chaque situation difficile n'est pas la conséquence du péché. Si c'est la conséquence du péché, faites comme David, dit « Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. » Et si le Seigneur te montre le péché, répands-toi, répands-toi. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas forcément le péché qui cause l'épreuve. Alléluia. Donc nous devons apprendre à interpréter l'épreuve avec sagesse. Troisièmement, quelle attitude à adopter? C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Demeurons dans la présence de Dieu. Pourquoi c'est important, bien-aimé, dans le Seigneur? Pourquoi c'est important de rester dans la présence? Quand je parle de demeurer dans la présence de Dieu, ça signifie demeurer dans la prière. Demeurer dans la prière. Celui qui prie reconnaît que Dieu peut tout et que lui, il est limité. Alléluia. Celui qui prie, c'est celui qui s'humilie. Un homme ou une femme qui ne prie pas, c'est un homme qui croit qu'il est capable de s'en sortir par lui-même. Quand vous cessez de prier, ça veut dire, vous êtes en train de dire, je peux m'en sortir moi-même. Et parfois, Dieu peut nous laisser y aller. Vas-y. Parce qu'il sait que quelque part, tu vas revenir. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu signifie demeurer dans la prière, mais aussi demeurer dans la sanctification. Alléluia. C'est important parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les hommes ou les femmes qui sont rebelles à l'Esprit de Dieu qui parle en eux. Tu pries et en priant, Dieu va te révéler des choses que tu dois changer. Il faut être prompt à changer. Alléluia. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est important de demeurer dans la présence de Dieu parce que, bien aimé dans le Seigneur, je le dis souvent, Dieu est omniprésent. Mais son secours n'est pas omniprésent. Sa bénédiction n'est pas omniprésente. Si Dieu te veut à Ninive, tu vas à Tarsis, tu ne verras pas le secours de Dieu là-bas. Ce que Dieu a prévu pour nous, si c'est à Ninive, nous devons aller à Ninive. Alléluia. Même si Dieu est partout. Alléluia. Oui. Et Dieu ne va pas changer les règles du jeu pour toi. Dieu est Dieu. C'est lui le berger, c'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui montre la direction. Alléluia. C'est important que nous restions dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu change le rapport des forces sur le terrain. C'est dans sa présence que Dieu change le rapport de force. Ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays, Dieu va changer le rapport de force. Mais c'est dans sa présence qu'il va le faire. Alléluia. Et c'est dans sa présence que nous pouvons le faire. J'aime l'histoire de David et Goliath. Est-ce que vous savez que David avait déjà remporté la bataille contre Goliath avant même d'être devant Goliath? David avait déjà renversé les rapports de force sur les terrains. Goliath ne le savait pas. Mais David le savait. C'est pourquoi il s'est présenté devant Goliath en disant « Aujourd'hui, je vais offrir ta tête, ta chair aux oiseaux du ciel. » Ce n'était pas du positivisme. Là où il s'était né, il savait que Dieu m'a déjà donné la victoire. Où est-ce qu'il a eu la victoire? Ce n'est pas sur le champ de bataille, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va changer le rapport de force sur le terrain. Et enfin, pourquoi c'est important de demeurer dans la présence de Dieu? Bien aimé, parce que le plus important, ce qui va déterminer l'issue de l'épreuve ou du combat dans lequel nous sommes engagés, ce ne sont pas nos ressources. Non. Ce qui est l'élément le plus déterminant, ce n'est pas qu'est-ce que tu as. Ce n'est pas comment tu t'appelles. Ce n'est pas quel titre tu as. Mais le plus important, c'est devant qui tu te tiens. Devant qui tu te courbes. Qui a autorité sur toi. Alléluia. Le combat dans lequel nous sommes engagés, il est spirituel. Et dans le monde spirituel, on ne respecte que ce qui est le plus puissant. Pas celui qui a le plus, c'est pas celui qui a raison. Mais celui qui est le plus puissant. Si nous sommes dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, nous nous humilions et Dieu s'élève pour nous. Alléluia. Et lorsque l'ennemi nous voit, ce qu'il voit, c'est l'autorité qui s'est élevée pour nous, au-dessus de nous. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout dans la présence de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est l'épreuve, quelle est la situation particulière dans laquelle tu te trouves, mais toi tu le sais. J'aimerais d'abord que nous puissions prier individuellement. J'aimerais que chacun de nous puisse considérer sa propre vie. Si nous voulons voir Dieu se manifester dans notre famille, dans notre église, dans notre nation, nous devons d'abord, nous-mêmes, dans notre propre vie, être témoins de la manifestation de Dieu dans nos propres vies, dans nos propres batailles. Et j'aimerais que tu considères l'épreuve dans laquelle tu te trouves en ce moment. Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie qui te chagrine, quelque chose qui pèse sur ton cœur, quelque chose qui t'enlève le sommeil, quelque chose qui te fait mal, et quelque chose pour laquelle tu dis, il n'y a que Dieu qui peut me sortir de cette situation. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être sincères devant le Seigneur. Le premier intercesseur, ou le deuxième intercesseur pour toi, c'est toi-même. Le premier, c'est Jésus-Christ, parce qu'il intercède pour nous. Mais le deuxième, c'est toi-même. Tu connais la situation dans laquelle tu te trouves. Et si tu regardes ta vie, tu sens que tu n'as pas d'épreuve, tu vis une vie où il n'y a pas vraiment de difficultés. J'aimerais te proposer de considérer l'épreuve devant laquelle notre nation se trouve, la RDC. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions prier chacun en ce qui le concerne individuellement. Regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Ça peut être une situation de maladie, une situation de chômage, de célibat, de désaccord dans ton foyer, où tu as un enfant ou des enfants rebelles, où tu as un travail, mais ce travail est trop précaire, et tu t'attends au Seigneur. Jusque-là, le Seigneur ne s'est pas encore manifesté, quelle que soit la situation. Mais ça te concerne toi d'abord. J'aimerais que tu regardes, tournes tes regards vers le Seigneur. Et que tu commences à dire, Seigneur, merci parce que tu vas manifester ta gloire au travers de cette situation. Et je suis l'instrument par lequel tu vas passer pour manifester ta gloire. Est-ce que nous pouvons élever nos voix dans la prière? Tu pries pour toi-même. Dis au Seigneur, ne lui demande rien. Ne lui demande rien. Nous devons apprendre à prier en fonction de la révélation que la parole de Dieu nous donne. Dis au Seigneur merci parce que au milieu de cette situation, tu vas manifester ta gloire. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien ne t'est impossible. Je reconnais que rien ne t'est impossible. Je reconnais que cette situation n'a qu'un seul but. Cette épreuve n'a qu'un seul but, c'est de manifester ta gloire dans ma vie. Tu veux que j'apprenne à goûter à ta gloire. Tu veux que j'apprenne à goûter à ta gloire. tu veux que j'apprenne à être témoin. Tu veux que je sois le premier témoin de la manifestation de ta gloire. Je te dis merci parce que tu m'as choisi. Si je vis cette épreuve, c'est parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi comme un matériel didactique. Tu m'as choisi comme l'argile entre les mains du potier. Tu m'as choisi pour manifester ta gloire. Et je te dis merci. Parce que ton agenda pour cette situation, ce n'est pas de me détruire. Tu ne veux pas me détruire, mais tu veux te manifester au travers de moi. Et je te dis merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette maladie. Merci pour ce chômage qui a duré. Merci pour ce partenaire qui est endurci. Merci pour ces enfants qui sont rebelles. Merci pour ce frère et cette sœur qui est loin de toi. Merci, merci pour cette montagne qui est devant moi. Merci. Parce que c'est ce que tu vas utiliser pour manifester ta gloire. Ceux qui sont autour de moi ont besoin de voir quel est le Dieu que j'adore. Alléluia. Tu nous as appelés à être des témoins. Comment allons-nous témoigner si nous n'avons pas de témoignage? Seigneur, merci pour le témoignage que tu me réserves. Merci pour le témoignage que tu prépares. Merci pour mon témoignage qui est caché, emballé dans cette épreuve. Merci pour le témoignage qui est emballé par cette épreuve. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Tous les hommes viendront à toi et ils verront ta gloire. Ils verront tes œuvres dans ma vie. Ils verront tes œuvres et ils changeront de discours à cause de ce que tu auras accompli. Oh, merci parce que je ne suis pas seul dans cette situation. Tu es avec moi. Alléluia. Merci parce que tu ne m'as pas abandonné. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Et tu accompliras ta parole dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions maintenant prier pour notre église, pour notre paroisse, la CBK Gomaville. J'aimerais que nous prions pour cette église. Nous sommes au début de l'année 2023. Il y a des choses que nous voulons voir dans cette paroisse. Il y a des choses que nous voulons voir dans cette paroisse. Je ne sais pas si tu ressens dans ton cœur ce que le Seigneur ressent pour cette paroisse. Je ne sais pas si tu le ressens. S'il y a une chose pour laquelle Dieu nous a mis ensemble dans cette paroisse, c'est parce que Dieu a un but, un agenda pour cette ville de Goma. Et le but de Dieu, c'est de sauver. Le but de Dieu, c'est de sauver. J'aimerais que nous puissions prier pour notre paroisse et demander au Seigneur, 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 manifeste ta gloire au travers de notre paroisse. Manifeste ta gloire. Que tous ceux qui traversent des situations difficiles dans cette paroisse, ceux qui viennent avec des fardeaux lorsque nous nous réunissons, qu'ils trouvent ici à Gomaville la réponse, la restauration, la délivrance. La Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. J'aimerais que nous prions pour notre paroisse et dire, Seigneur, que Gomaville soit une maison de prière. Un lieu où tu te manifestes. Un lieu où ceux qui viennent chargés rentrent soulagés. Un lieu où ceux qui viennent endurcis rentrent transformés. Un lieu où ceux qui viennent avec des buts, des motivations qui sont impurs, rentrent changés et transformés. Que Gomaville soit le foyer, la pépinière que Dieu va utiliser pour susciter des hommes et des femmes, pour enflammer cette province avec l'Évangile. Est-ce que nous pouvons prier pour notre paroisse? Cette affaire n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire d'évangéliste ou d'intercesseur ou de choriste. C'est ton affaire, c'est ton affaire, c'est mon affaire. Mettons un peu de côté nos titres, bien-aimés dans le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, il y a une raison pour laquelle tu nous as mis ensemble dans ce temple. Ô Seigneur, nous voulons voir ta gloire au travers de cette paroisse. Nous voulons que d'ici naissent des hommes et des femmes qui vont influencer notre pays. Tu nous as montré, Seigneur, les sept montagnes de l'influence. Ô Seigneur, que sur ces sept montagnes, Seigneur, s'élèvent des hommes et des femmes dans cette paroisse qui vont influencer la RDC, dans les familles congolaises, dans l'éducation de notre pays, dans les médias, dans la politique. Nous voulons voir ces hommes s'élever de cette paroisse. Seigneur, sers-toi de cette paroisse comme une pépinière où tu vas susciter des hommes. Ne nous laisse pas continuer à venir ici comme un rite, comme un rituel, Seigneur. Nous voulons que ce lieu soit un lieu de transformation. Alléluia. Alléluia. Seigneur, utilise tout ce que nous amenons. Utilise nos talents, utilise notre argent, utilise notre temps, utilise, Seigneur, notre vocation. Utilise tout ce que tu as mis en nous, mais ce que nous voulons voir, c'est une pépinière, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende. Nous sommes disposés, nous sommes disposés à soifer.
Oh Seigneur, nous sommes disposés. En tant qu'Église, nous sommes disposés. Viens Seigneur et passe par nous, passe par cette paroisse. Oh, ne nous dépasse pas Seigneur, que ton panier qui circule passe par cette paroisse. Oh, déverse ton onction dans cette paroisse, déverse ton onction dans cette paroisse. Qu'un vent nouveau souffle dans cette paroisse, réveille-nous Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous, réveille-nous, réveille ma sœur et mon frère. Alléluia. Nous sommes disposés à rester dans ta présence. Nous sommes disposés à te chercher dans la prière. Nous sommes disposés à te chercher dans ta parole. Jusqu'à ce que tu te révèles à nous. Jusqu'à ce que tu nous donnes une parole. Jusqu'à ce que tu nous équipes. Jusqu'à ce que tu nous connectes. Jusqu'à ce que tu nous oignes de ton esprit. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Révèle-toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Transforme nos réunions. Transforme nos réunions. Transforme nos assemblées. Transforme. Oh Dieu. Oh Dieu. Manifeste-toi dans cette paroisse. Alléluia. Alléluia. Qu'un vent nouveau souffle, que ta lumière luise, qu'elle embrase toute la communauté, qu'elle embrase toute la communauté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ta lumière brille à Gomaville. Oh Seigneur,
je suis disposé, disposé. Assoiffé que ton onction.
Alléluia.
Alléluia. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir, Seigneur. Et nous croyons que cette année sera différente. Merci pour cette année, Seigneur. Merci pour ce que tu as planifié pour cette année pour nous. Nous sommes disposés, Seigneur. Passe par nous, Seigneur.